Sébastien Pla, alors on a longuement évoqué votre travail de sénateur, un certain nombre de projets sur lesquels vous travaillez. Une petite parenthèse politique, politicienne, vous êtes membre du Parti socialiste. Alors je n'ai pas besoin de rappeler pour les auditeurs ce qui se passe aujourd'hui. Un congrès s'est terminé, il a été douloureux. Ce qui en sort n'est pas clair. On a l'impression qu'il y a deux blocs qui s'affrontent au sein du parti. Vous d'abord, Sébastien Pla, où est-ce que vous vous situez ?
Où je me situe ? Je me situe au-dessus de tout ça, de ces problèmes de famille interne. Je suis triste de voir cette séquence, parce que nous ne sommes déjà pas très nombreux, de moins en moins. Je crois qu'il y a une vingtaine de milliers d'adhérents. Et pas arriver à se mettre d'accord sur une ligne claire et avoir une fracture aussi importante, qui se joue 50-50 en fait. Je suis triste pour ma famille et je suis triste surtout pour la gauche en général, parce que pas arriver à faire une synthèse positive, tout ça pour des histoires de courant, de leadership, alors qu'aujourd'hui les Français n'attendent pas ça. Ils se moquent éperdument des problèmes de famille. Entre nous, aujourd'hui il faut répondre aux problèmes. C'est-à-dire les problèmes, c'est la crise énergétique, c'est toutes ces questions-là. Et la réforme des retraites, il faut qu'on se mobilise à fond. Et là, non, au lieu d'aller à l'essentiel, on se fait la guerre. Mais bon, c'est une constante dans les partis politiques. Hein.
Oui,
c'est bien, il faut des partis politiques, parce que ça permet de stabiliser un petit peu les choses. Mais ça en devient caricatural. On sort d'un congrès aussi chez les Républicains
c'était pas un long fleuve tranquille.
Non plus, à peu près du même niveau. Chez nous, on fait pareil. C'est un triste spectacle que l'on donne de la politique. Moi, je suis malheureux pour ma famille.
Voilà, peut-être, mais ce que ne comprend pas l'électeur moyen, le citoyen moyen, c'est les raisons de ce désaccord. Certains disent, alors, les refondateurs, c'est ceux, je fais simple, mais vous me direz si ça suffit comme explication. Il y a ceux qui sont pour l'alliance avec la NUP, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, d'autres qui se qualifient de refondateurs, qui sont plutôt contre ce type d'alliance. Je ne dis pas contre une alliance, mais contre ce type d'alliance. Est-ce que c'est ça ?
Oui et non, parce qu'en fait, ils sont tous d'accord, et nous sommes tous d'accord, pour qu'il y ait une union de la gauche. La gauche, elle ne peut pas gagner quand elle est divisée. D'ailleurs, à chaque fois qu'elle a gagné, c'est qu'elle était unie.
Oui, mais
aujourd'hui, ce que les uns refusent par rapport aux autres, c'est de prêter allégeance à Jean-Luc Mélenchon, tout simplement. C'est le point principal.
Alors, c'est plutôt le problème Mélenchon, pour dire les choses clairement.
Écoutez, moi, j'ai l'habitude de dire ce que je pense. Hein. Oui, c'est le problème Mélenchon. Et moi, j'adhère pas. Je vous dis pour la bonne et simple raison que je peux pas accepter qu'un responsable politique traite des flics d'assassins. Il va trop loin. Et ces provocations-là.
C'est-à-dire pour vous, c'est pas un homme d'État.
Ah, qui a pas la carrure et pas la stature de l'État. On s'attaque pas aux institutions. Je suis désolé.
Et aux fonctions, la police, et aux fonctions régaliennes.
Oui. C'est clair. Et ça, tout ça donne du grain à moudre à l'extrême droite. Voilà, c'est tout. Donc, quand on veut rentrer en responsabilité, faut garder la tête froide et arrêter de raconter n'importe quoi et de faire de la politique spectacle. Les gens attendent du résultat sur le terrain. Et la gauche, et même une partie de la droite, d'ailleurs, gère très bien des collectivités locales, des départements, des régions, des mairies, proprement, sans problème, en bonne intelligence, dans l'alliance. Moi, je suis toujours en recherche de compromis avec tout le monde. Voilà, il n'y a que les idées qui ne sont pas débattues, qui ne sont pas bonnes. Il faut débattre et accepter de s'écouter. Mais quand on ne s'écoute pas, ben, voilà, on se retrouve avec ce genre de comportement et on renvoie une image déplorable de la politique. Donc je suis malheureux de ça et j'espère que, enfin j'espère en tout cas, je souhaite ici dans l'Aude et au niveau national que le Parti socialiste, en tout cas, que ces chamailleries cessent, que chacun s'écoute et que nous remettrons le cœur à l'ouvrage parce que les sujets sont.
Est-ce que c'est pas un peu un vœu pieux ? Est-ce que ça en prend le chemin ?
Alors, si ça ne prend pas le chemin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le parti va exploser en deux parties, comme la droite a explosé. Et en fait, on fait le jeu du président de la République qui ne souhaite qu'une chose, c'est que la France ressemble aux États-Unis avec deux grands blocs politiques, les Républicains et les Démocrates. Et donc c'est quoi qu'il veut ? Il veut une droite dure avec le Front National, entre guillemets, républicaine, et des démocrates partant de la droite modérée à la gauche progressiste, et puis restera juste l'extrême gauche dans son coin. Mais c'est pas ça, c'est la culture et l'histoire de France, c'est absolument pas celle des États-Unis. Donc bon, il est important que les partis se remémorent déjà le passé, sous le nom du passé pour prévoir l'avenir, et cesse de se faire à la guerre sur des détails. Bon, après, vous savez, la NUPES a été un accord technique l'année dernière pour que le Parti socialiste maintienne un groupe à l'Assemblée
Oui,
nationale.
mais pour vous, c'était un moment d'histoire et on tire un trait et on passe à autre chose.
Oui, tout à fait.
C'est comme ça que
Tout à fait,
vous
sinon,
le voyez.
si on fonctionne avec des rancœurs, on n'avancera pas.
Et alors, dans l'Aude, puisque vous êtes sénateur de l'Aude et audois, bien entendu, et depuis fort longtemps, puisque vous avez fait votre carrière dans l'Aude, la situation au niveau du PS n'est guère plus reluisante, puisqu'on a d'un côté une concurrence aujourd'hui pour le leadership, c'est-à-dire être premier secrétaire du département, entre M. Soler Alcaraz et M. Andrieu.
Oui.
C'est un peu le même topo, en quelque sorte.
Mais oui, dans l'Aude, c'est compliqué au Parti socialiste, les élections internes. Parfois, même moi, j'y comprends pas grand-chose. Mais bon, on doit voter d'abord sur les textes d'orientation. Donc, une orientation. Qu'est-ce qu'on veut donner, quelle ligne on veut donner à notre
Les
parti,
fameux
sur quel
TO,
sujet, les
là,
fameux TO.
dans le
Donc,
jargon.
logiquement, un texte d'orientation, à partir du moment où les militants sont consultés et décident de choisir une voie plutôt qu'une autre, ben, on en prend acte. Et on construit le fonctionnement de la fédération autour de cette orientation. Eh bien non, comme on décide de faire simple au Parti socialiste, on a un second vote, et là on vote pour le secrétaire national. Bon, ça peut ne pas être le même résultat, la preuve, puisqu'Olivier Faure a été élu au national, mais dans l'Aude, c'est le TO3, donc de Nicolas Meyer-Rossignol, qui a été élu. Donc déjà deux votes, donc la refondation a gagné les deux premières manches du match. Donc à partir de là, il fallait trouver un accord, se mettre d'accord, pas présenter de premier secrétaire fédéral, partager les postes entre M. Alcaraz et M. Andrieu, l'un étant secrétaire fédéral, l'autre représentant le territoire au Conseil national, et on évite un vote et on évite des drames. Eh bien non, il y a eu un vote, et c'est pas le TO3 qui a gagné, c'est le TO2. Donc, à mon œil, je comprends plus rien. Les militants ont choisi une ligne, et au final, c'est un autre secrétaire fédéral. Bon. Malgré toute la sympathie que j'ai pour Alix, très bien qu'il y soit. Donc j'espère qu'il va pouvoir faire la synthèse que l'on souhaite toutes et tous, c'est-à-dire un bon fonctionnement paritaire de cette belle fédération entre les uns et les autres dans le respect pour construire et surtout pour ne pas perdre de vue que l'intérêt c'est pas de se chamailler entre nous, mais c'est justement de se chamailler avec nos adversaires. Et nos adversaires, je vais pas vous faire de dessin, département de l'Aude, ils sont déjà identifiés.
Alors, pour conclure cette émission, monsieur le sénateur, on revient tout à fait sur le travail de sénateur et sur la proposition de loi. Vous l'avez un petit peu évoqué dans une première partie. Vous travaillez sur proposition de loi, donc, pour essayer de faire devenir loi, un texte sur, je cite, l'honorabilité dans le sport. Pouvez-vous rapidement conclure là-dessus?
Oui, alors ce que l'on souhaite, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a encore trop de problèmes de prédation sexuelle. On l'a vu, malheureusement, dans la religion et à l'église, il y a quelque temps en arrière, dans des écoles, ça peut arriver aussi, et surtout dans le sport. Parce qu'il y a une relation entre dominant-dominé, entre un entraîneur, un éducateur et un enfant. Et donc je travaille avec Sarah Abitbol, qui a été l'une des premières à parler et à livrer ce qu'elle a vécu lorsqu'elle était adolescente avec son entraîneur, pour qu'aujourd'hui les clubs sportifs puissent avoir les moyens et les outils de détecter d'éventuels prédateurs et qu'ils soient mis en responsabilité là-dessus. Parce qu'il n'est pas possible de mettre un gendarme ou quelqu'un, un psychologue dans chaque club sportif pour détecter d'éventuelles déviances d'un éducateur ou d'une éducatrice.
Donc vous voulez responsabiliser les présidents, enfin,
les présidents, les gestionnaires en fait de clubs, pour qu'ils nous aident justement à repousser ces éventuels prédateurs qui sévissent dans le milieu sportif et qui sont nombreux. On voit tous les scandales qu'il y a eu dans le tennis, le patinage artistique, le handball, dans tout les sports équestres, partout. Et moi, je dis stop, il faut arrêter ça. Et de notre responsabilité de législateur et de la mienne, de tenter d'apporter des propositions et des solutions concrètes pour accompagner surtout les clubs parce que la détection, elle doit se faire d'abord et avant tout au sein de...
Voilà, donc c'est ce sur quoi vous travaillez aujourd'hui pour que ça devienne une loi qui sera précisée, et vous y reviendrez forcément.
Vous savez...
Combien de temps ça peut prendre?
Au-delà des questions économiques et viticoles qui m'occupent beaucoup et m'intéressent énormément, la question du droit des femmes et de la protection des enfants, pour moi, est essentielle. Mmh. Et tant que j'occuperai ce poste-là, j'œuvrerai dans ce sens-là.
Voilà. Alors on attend bien finalement un accouchement heureux. Combien de temps ça peut prendre d'après vous, monsieur?
J'en sais strictement rien. Ça peut aller vite comme oui. Prendre du temps.
Comme ça peut traîner.
Bon. Mais comme c'est un sujet...
Mais en tout cas qui vous tient à cœur, ça on l'a bien compris. Merci monsieur le sénateur, merci Sébastien Pla. Le prochain invité sera Didier Aldebert. Alors il est maire d'une commune de la commune de Vinassant. Il est également conseiller départemental s'occupant du tourisme. Et puis il est aussi le président de la Société d'économie mixte du Grand Narbonne à Lénis. Voilà, Didier Aldebert. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis. Merci monsieur le sénateur et à tous, à la semaine prochaine.
Merci.